CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour, un miracle se cache derrière ta conversion et pas qu'un d'ailleurs, peut-être beaucoup de miracles et beaucoup d'âmes qui peuvent venir au Seigneur au travers de ta seule et unique personne. Et je serai avec Frank et Annabelle. Hello.
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 T'as vu comment on match Frank et moi?
J'ai remarqué, ouais.
Ouais, toi t'as des petits points
ouais,
rouges quand même.
Ouais.
Si.
Parce que je suis un peu plus discrète que vous,
c'est
en
ça.
Général.
C'est vrai, dans la vie. Petite voix toute douce.
Pas certain.
Tu veux te balancer des dossiers, Frank, pour commencer cette émission?
Pas forcément discrète, Annabelle.
Non, on en reparlera une autre fois.
L'oreille, des fois, des trucs.
Ah ouais, c'est vrai que quand on met des boucles d'oreilles, on est pas
du tout, ça.
Toute la notion de la discrétion est remise en question aujourd'hui sur ce plateau, mais nous ne parlons pas de ça aujourd'hui.
Je me sens totalement exubérante maintenant.
Moi aussi, j'ai mis des boucles d'oreilles, Frank. Voilà. Bref, passons à autre chose, à un thème bien plus important.
De l'autre bord.
Et bien plus intéressant. Aujourd'hui, on aura un très beau C'est mon histoire. Comme je l'ai dit hier dans ma conclusion, le meilleur de tous les C'est mon histoire.
Wow.
Puisque j'ai reçu nul autre que mon cher et tendre mari, Michael Lebeau, qui a raconté pour la première fois vraiment de manière détaillée et publique sa conversion. Donc vous connaissez sûrement des petites bribes. Mm-hmm. Il l'a peut-être déjà fait lors de prédications, mais là c'est vraiment un condensé de toute l'histoire de comment il est venu au Seigneur. Donc un beau C'est mon histoire en deuxième partie d'émission. Et en attendant, nous, on va pouvoir, avant qu'il y ait la cerise sur le gâteau, il y a vous
la
et à moi.
Qu'on atteint, on va perdre du temps un peu avec vous sur
c'est
le
ça,
gâteau.
C'est ça. Tu sais, pour
la première partie.
C'est pour chauffer le public, en fait, et attirer le suspense. Bon, ben, nous, on va faire ça.
Okay.
Bon courage, Evelyne, pour nous supporter jusqu'à la partie intéressante de l'émission.
Non, mais ça va être bien, vous aussi, ça va être bien.
Et elle a dit, je tiens à le dire, dans les émissions de cette semaine, que Omar était son favori.
Encore?
J'étais le cinquième, vraiment dans le bas de la liste. Je tiens à le redire. Et toi, Annabelle, t'étais la neuvième favorite.
Ça veut dire qu'il y en a encore d'autres, mais on les connaît même pas, mais je suis après eux.
J'ai mis la technique dedans, en fait.
Cette émission.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Commençons, on se recentre. Veuillez nous excuser, c'est la fin de la semaine, on est fatigué. Donc, je vous rappelle notre thème, puis je nous le rappelle à nous. Un miracle se cache derrière ta conversion et on commence tout de suite avec la pensée du jour.
Ta conversion n'est que le point de départ pour amener bien d'autres au salut. Même si tu n'es pas un évangéliste, même si tu n'es pas un pasteur, même si tu n'es pas connu, ta conversion va amener d'autres personnes au salut. Et comme Abraham, qu'on appelle le père de la foi, qui était le père d'une multitude, notre conversion, notre salut et notre obéissance maintenant envers Dieu va amener d'autres à pouvoir le connaître aussi. Et c'est une grâce, mais aussi une responsabilité de se dire j'ai rencontré le Seigneur, mais maintenant j'ai cette responsabilité de le faire connaître. Et juste à cause de ça, on ne peut plus se dire oh mais moi, ma petite vie insignifiant, je sers à rien, je sais pas à quoi je sers. Non, on lit dans la Bible, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Alors si ta femme, si ton mari, si tes enfants, si ton cousin, si ton oncle, si ta tante, si ta grand-mère, ton grand-père n'est pas encore sauvé, toi et ta maison, vous ne servait pas encore l'Éternel et tu as un rôle à jouer derrière tout ça. Et après, de génération en génération, on se souviendra, si une généalogie est écrite avec ton nom, on se souviendra que tout a commencé avec toi. Et quand on regarde la généalogie de Jésus, on voit fils de David, fils d'Abraham. Entre Abraham et Jésus, il s'est passé, je crois, 42 générations. Et si Abraham n'avait pas obéi, si Abraham n'avait pas cru qu'il pouvait être le père d'une multitude, études alors qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, alors qu'il était déjà vieux, être père d'une multitude, être père de la foi, être celui qui était à l'origine dans la généalogie, fils d'Abraham. C'est écrit ça dans la généalogie de Jésus. Et il peut être écrit toi aussi dans ta généalogie, fils de, avec ton nom, il y aura tes fils, tes filles, tes petits-fils, tes petits-fils, tes arrière-arrière-arrière-arrière petits-fils qui eux-mêmes amèneront d'autres personnes au salut. Alors aujourd'hui, arrête de dire « je ne sais pas à quoi sert ma vie, ta vie sert à faire connaître Jésus-Christ et premièrement dans ta famille et je veux le redire sur ta vie, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. »
Amen, amen, amen. Merci Annabelle. En fait, quand on réalise que on est une lumière et on peut amener lumière dans une maison où les ténèbres ont régné jusqu'à présent. Lorsqu'on vient au Seigneur, tout à coup, on est comme une bougie qui s'allume. Et dans la maison dans laquelle on a peut-être grandi, et la maison même élargie, hein, les réunions de famille qu'on a pu faire et tout, il n'y avait peut-être aucune bougie allumée, c'était les ténèbres qui régnaient. Mais dès le moment où nous-mêmes on est allumés par le Seigneur, on va commencer à briller. Et si on brille, ça veut dire qu'il y a des yeux qui vont tout à coup s'ouvrir autour de nous, des choses qu'on n'arrivait pas à distinguer dans le noir, qu'on n'arrivait pas à comprendre, tout à coup des personnes qui vont commencer à ressentir une conviction de péché, à ressentir un malaise dans leur vie et à nous voir, nous briller et à dire mais t'as quelque chose de différent, t'as quelque chose de spécial. Et parfois, c'est même pas par nos mots qu'on va briller, c'est juste par notre attitude, par notre présence, parce qu'on transporte quelque chose. Je me souviens d'une dame chez qui j'allais travailler quand j'étais aide familiale en Suisse. J'allais la voir régulièrement, un après-midi par semaine, pour travailler chez elle, pour prendre soin d'elle, faire son ménage, faire ses courses, etc. Et puis, elle m'a dit un jour... Mais Evelyne, quand vous venez chez moi, c'est bizarre, mais il y a une lumière qui rentre dans la pièce. Et moi, je savais que ce n'était pas dû à mon charisme extraordinaire, mais que c'était dû à la lumière qui était dans mon cœur, à la lumière de Jésus qui brillait au travers de moi. Et j'ai pu lui annoncer l'évangile de cette façon-là. Je ne lui avais jamais dit, vous savez, je suis chrétienne, vous savez, vous croire en Jésus. Non, juste... parce que j'allais chez elle, une lumière brillait jusqu'au point où elle m'a demandé quoi. Je suis allée chercher ma Bible dans ma voiture, je lui ai annoncé l'évangile, c'était magnifique. Nous sommes ces lumières-là et oui, nous avons cette responsabilité de briller de plus en plus fort dans notre famille et autour de nous.
Mmh. Amen. Bah toi, dans ta famille, je sais même pas comment ça a commencé, mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui s'est donné au Seigneur et ça a eu un impact extraordinaire parce qu'il y a eu toute une lignée de croyants.
Ouais. Ah ouais, tu la connais?
Assez, oui.
Ah, assez là. Ou on fait un C'est mon histoire un jour, Frank, puisque tu refuses toujours d'en faire avec moi.
Ouais, c'est vrai que je refuse, mais...
Parce que ce sera toujours moins bien que celui de Mika.
Ah, ben, ça, c'est sûr. Mais vite dit, dans le catholicisme fort du Québec des années 40 et 50, mon grand-père et ma grand-mère ont été invités à des réunions évangéliques qui commençaient tout juste à se faire au Québec, justement. Et puis, mon grand-père a été touché, ma grand-mère aussi, là, je vois très, très vite. Mm-hmm. Mais c'était des gens qui prêchaient la Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit, des choses, mais complètement à l'opposé de la religion traditionnelle. Vraiment, vraiment.
Mm-hmm. Et sachant qu'ici, au Québec, c'était très, très traditionnel.
Et t'étais, en fait, si tu quittais l'Église catholique, ben, t'étais excommunié, c'était fini pour toi, c'était la honte, en fait. Et donc, ils ont été touchés par le message, ils se sont dit ça, ma grand-mère, elle avait dit ça, ça, c'est la religion des apôtres. C'est-à-dire que ça, c'est ce que je vois dans la Bible. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'eux, ils vivent dans leurs réunions, c'est ce que je vois. Ils parlent en langue, ils chassaient des démons, c'était le gros truc, là. Et en fait, bon, longue histoire courte, leurs parents à eux, mes arrière-grands-parents sont venus au Seigneur, et après ça, les frères et les sœurs et leurs enfants. Et aujourd'hui, on est rendu qu'on est plusieurs générations qui servent le Seigneur. Moi, je suis troisième génération de prédicateurs. Il y en a d'autres par la suite aussi, donc c'est une belle histoire. Il y a eu vraiment un boum, 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 un effet de génération en génération et qui fait que la famille Poulin, ben oui, est une famille bénie et elle est connue quand même au Québec parce que ça fait longtemps qu'on prêche la parole.
Exact. La lumière est rentrée dans la famille Poulin et elle a éclairé toute la famille.
Voilà, vraiment.
C'est beau.
Vraiment.
Bah, toute la famille, puis le Québec, oui, même au-delà, parce que quand, si, on ne va pas le faire, hein, mais si on comptabilisait toutes les vies qui ont été, toutes les âmes qui ont été sauvées, toutes les vies qui ont été impactées, toutes les fois où ça a créé une semence qui a amené un salut, à travers toutes les personnes qui ont été sauvées dans cette famille, En fait, tu te dis, mais wow. Et je ne sais pas si le jour où tes grands-parents et tout ça, ils se sont donnés au Seigneur, ils en avaient conscience. Mais à ce moment-là, on aurait pu leur dire, mais vous allez être père et mère d'une multitude, parce que c'est une multitude qui allait traverser les générations.
Ouais.
Et puis quand on entend ça aujourd'hui, c'est, je vais devenir un père spirituel, avec des enfants spirituels, je vais avoir un ministère. Mais en fait, ce n'est pas une histoire de ministère, c'est une histoire d'impact, que mon témoignage a amené d'autres personnes à découvrir Jésus. Et c'est cet effet boule de neige. Donc oui, quelque part, on est tous appelés à devenir des pères et des mères d'une multitude à travers simplement notre témoignage. Et c'est faux de se dire, il faut que je sois dans le ministère pour que ça arrive. En fait.
Exact.
À mon travail, parce que j'étais avant, dans le magasin où je travaillais, quand je me suis vraiment enflammé pour le Seigneur, ça dérange. Et ça l'a dérangé. Parce que des gens me connaissaient comme que j'étais. J'étais comme classé comme tout le monde, si on veut. Et là, soudainement, je disais non à des trucs. Je fais pas ça. J'étais comme si c'était pas juste des « je fais pas », mais c'est « mais t'es un peu, mais il y a 3 mois, mais là, je fais plus ces choses. » En fait, ça a apporté des questionnements. Ouais. Et les gens ont remarqué, et c'était pas mauvais. Et les gens, ça a touché beaucoup de personnes, justement, dans l'endroit où je travaillais. Et Dieu a agi parmi l'endroit où j'étais, tout simplement par mon témoignage et par les changements que Dieu a apporté dans ma vie, il se reflétait. Quand quelqu'un naît de nouveau, il y a une différence.
Oui.
Et les gens vont le remarquer. Ça se peut pas que tu sois né de nouveau, sinon tu es vraiment, tu as eu une nouvelle naissance top secrète, en fait. Sinon, ça se peut pas. Ça se peut pas. Paul, il est né de nouveau. Il a eu la rencontre avec Jésus, il est devenu aveugle. Et après ça, il a mangé, il a bu, il a pris des forces, sa vision est revenue, il a commencé à prêcher. Oui. Tu vois, il était complètement un homme nouveau. Quand tu vis la nouvelle naissance, il se passe de quoi? Et ça l'impacte les autres parce que ta vie change. Donc, les gens le voient. Tu n'es plus le même.
Exactement. Reinhard Bonnke, dans sa biographie Une vie en feu, il la commence en racontant justement l'histoire de grand-père Bonnke. Comment il a connu le Seigneur avec, je pense, Ludwig Graf, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un mouvement qui venait du réveil de Azusa Street, qui est arrivé jusque dans l'Allemagne profonde, qui a touché son grand-père qui souffrait de douleurs articulaires, un truc de fou. Apparemment, on l'entendait hurler dans tout le village. Le grand-père a été guéri, a été sauvé. Tout le village a été touché parce qu'ils ont vu cette guérison. Ils entendaient ses cris de douleur. Ensuite, ils entendaient ses cris de joie. Et puis, en fait, Bonnke est arrivé dans les générations qui ont suivi. Et on sait ce que ça a amené ensuite, particulièrement en Afrique. Et en fait, quand tu réalises justement comment une seule conversion, une seule âme est sauvée, ça allume un espèce de brasier devient incontrôlable et qui est fou. Et c'est sûr, c'est pas normal si au moment de notre nouvelle naissance, il n'y a pas eu à un moment donné une étincelle qui a giclé quand même à droite, à gauche sur quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire que toute votre famille devrait être au Seigneur la semaine qui suit votre conversion. On le sait, des fois, il y a des persécutions, il y a vraiment des forteresses familiales aussi, il y a des personnes qui refusent clairement l'évangile. C'est pas du tout un message de condamnation, c'est un message plutôt pour vous inspirer à ce que votre vie, votre témoignage puisse porter du fruit dans la vie de ceux qui vous entourent, particulièrement oui, les membres de votre famille, mais ça peut aller bien au-delà, bien plus loin. Frank parle du travail, certains d'entre vous, vous êtes étudiants, vous êtes peut-être la seule lumière de votre collège, de votre lycée, de votre école à briller. Eh bien, brillez, brillez plus fort parce que vous allez pouvoir en allumer d'autres et ça va être juste magnifique en fait. Et je présente juste le verset du jour, puis je te donne la parole ensuite. Marc 13, 10 nous dit qu'il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations avant que la fin arrive, avant que ce soit terminé. La mission, le mandat qu'on a, je le rappelle, c'est ça. Il faut à toute la création. Ça veut dire que tout le monde doit avoir entendu la bonne nouvelle de l'évangile à un moment ou à un autre avant que ça se termine. Et moi, je soupire après la fin. Jésus revient.
Mais tu es heureuse quand même dans ta vie.
Je suis heureuse. Mais on sera tellement plus heureux au ciel.
C'est sûr.
Ah, que Jésus revienne vite.
Et d'ailleurs, il y a un homme qui a fait une brèche par sa conversion pour qu'aujourd'hui, on ait ce commandement et qu'on ait cette grande mission. C'est Corneille.
Ouais.
Corneille a vraiment ouvert la voie. Il priait. Il priait. Bon, il a eu sa vision. Mais en fait, grâce à lui, grâce à sa conversion, on a eu nous-mêmes tous accès au message de l'évangile. Il a été la brèche.
Ouais.
Il a été l'homme qui a créé la brèche par sa conversion. Et quand il s'est converti, la Bible dit qu'il a fait venir réunir sa famille et ses amis. Et du coup, ils se sont convertis en grand nombre. Mais je me dis, mais gloire à Dieu pour cet homme. Mmh. Parce que derrière sa conversion, bah, il y avait nous, en fait. Ouais. Et pour avant Corneille, les non-juifs, bah, ils n'étaient pas concernés par ce message. Je dis gloire à Dieu à Corneille qui est devenu lui aussi père d'une multitude parce qu'il a ouvert la voie pour que l'évangile soit annoncé à toutes les nations.
Ouais, bon point, j'avais jamais remarqué, c'est fort. On va enchaîner avec quelque chose d'encore plus fort, excuse-moi Annabelle. C'était pas mal.
J'espère
quand même.
Que c'est le dernier bonjour chez vous, du coup, parce qu'après on ne pourra plus jamais aller au-delà.
J'ai un petit parti pris pour le sermon d'histoire qui suit. Vous le comprendrez, vous allez voir comment le salut de Michaël Lebeau a amené jusqu'à la vision de MCI et les saluts qui ont suivi grâce à cette vision. Je vous laisse découvrir son témoignage de conversion dans la rubrique « C'est mon histoire ». On se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai un invité très, très, très spécial et cher à mon cœur, mon mari, Michaël Lebeau. Coucou chérie.
Coucou, que je suis chanceux.
Et moi donc. Mais nous ne sommes pas là pour parler de moi. Nous allons parler de toi. J'ai voulu que tu sois là et que tu viennes nous raconter le témoignage de ta conversion. Parce que ton témoignage est vraiment beau et je pense qu'il est important que de nombreuses personnes le connaissent. Et tu n'as pas eu l'occasion forcément de le raconter en version condensée avec certains détails. Et donc, j'aimerais que tu puisses le faire aujourd'hui. Et pour commencer, pour ceux qui ne le savent pas, tu es née à l'île de la Réunion. Tu as grandi là-bas jusqu'à ta majorité. Et puis, tu avais une maman chrétienne, une grand-mère également. Donc, tu allais à l'église évangélique depuis que tu es tout petit.
Oui, j'ai grandi dans les églises, j'y allais, mais je n'avais pour autant pas fait de rencontre avec Dieu. Mais je croyais en Dieu. Mais pour moi, quand je voyais tous ces gens aller à l'église, plus je grandissais, plus je me disais, bon, ils vont à l'église parce qu'ils ont besoin d'une béquille dans la vie, ils ont besoin de croire en quelque chose pour s'en sortir dans la vie. Mais moi, je vais bien, mais je n'ai pas besoin de béquille, mais je croyais que Dieu existait parce que je réfléchissais, je voyais tout ce qui était là et je me disais, mais il y a un Dieu qui existe, c'est certain. Et j'avais au fond de mon cœur le désir de le rencontrer. Alors, on allait souvent au camp de jeunes et j'essayais de vivre une vie pieuse, une vie droite, mais je finissais toujours par tomber à faire ce qui était mal, à mentir, à voler. Et je suis même tombé assez très loin dans le vol. Mm-hmm. Mais bon, je vous passe les détails. Mais je cherchais Dieu. J'ai cherché dans la psychologie par la suite. J'ai cherché dans les choses un peu peut-être même mystiques, occultes, essayant de trouver. J'ai cherché en allant à l'église, mais je n'ai pas trouvé. Jusqu'au jour où, un jour, j'allais chez mon papy. Et il me dit, Michael, tiens, je vais te faire écouter. Écoute cette cassette. C'était les cassettes VHS d'un scientifique qui s'appelait Serge Tarasenko. Et il m'a dit, écoute, c'est l'un des plus grands scientifiques chrétiens au monde. Même dans le milieu séculier, un des plus grands scientifiques en physique nucléaire. Et cet homme parle de Dieu. Alors j'ai mis la cassette chez moi, j'étais seul le soir, mes parents n'étaient pas là. Je crois que j'avais environ 14-15 ans. J'ai mis la cassette et là cet homme, il expliquait comment tout peut vous montrer que Dieu existe, mais rien pour autant n'en sera la preuve. Alors il a parlé de l'évolution, la théorie de l'évolution, il a tout démonté. Je dis, ah ouais, c'est clair, il a raison. Mais il arrive et dit, tout ce que je peux dire vous amènera à la conclusion que certainement Dieu existe, mais rien pour autant n'en sera la preuve. Parce que Dieu ne se prouve pas, mais il se rencontre. Et vous devez vivre une expérience personnelle d'une rencontre personnelle avec Dieu. Donc là, j'étais tout écarquillé, je l'écoutais, je dis « Ok, mais comment je peux faire cette rencontre que je désire tant avec ce Dieu dans lequel je crois, mais je veux vivre du concret avec lui, je veux lui parler, je veux marcher avec lui, je veux du réel. » Et là, il me donne la solution. Il dit, vous arriverez à une frontière où tout vous laissera croire que Dieu existe, mais rien n'en sera la preuve. Le seul moyen de le rencontrer et de franchir cette frontière, c'est la foi en Jésus-Christ. Et là, il dit, Jésus-Christ est le seul chemin. Il est la vérité, la vie. Nul ne vient à Dieu que par lui. Et là, en gros, je comprends que Jésus-Christ est le chemin qui va me faire rencontrer Dieu. Donc, en gros, il dit, invoquez le nom du Seigneur Jésus, il va se révéler à vous. Donc là, tout content, j'ai enfin compris, après ces années à m'asseoir dans l'église, à écouter ces prédicateurs prêcher, j'ai enfin quelque chose de pratique. Donc, je vais dans la chambre, je prends un coussin et je hurle de toutes mes forces. Jésus, si tu existes, révèle-toi à moi. Jésus, je veux te rencontrer. Et là, j'ouvre les yeux, je regarde, est-ce qu'il y a une lumière, est-ce qu'il y a quelque chose, et il n'y avait rien. Donc, j'étais assez déçu. Mais plus tard, Dieu m'a révélé, le Seigneur Jésus m'a révélé que ce jour-là où j'ai crié à lui, il a fixé une date, un moment clé où il allait se révéler à moi. C'est là que plus tard, je pars en métropole,
En Bretagne.
France. J'ai quitté l'île de la Réunion pour aller en Bretagne, en France, faire mes études en informatique. Et c'est là que je rejoins une église évangélique. Et je suis là, dans l'église, et je pense que c'est ça, la vie chrétienne. Mais au fond de moi, il y a un vide qui est là. Il y a un manque qui est là. Et je sais que je n'ai pas vécu de rencontre particulière, mais j'adhère à... Je crois, comme les autres croient, je suis là, je vais à l'église.
C'était quoi ta motivation d'aller à l'église dimanche après dimanche?
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait une fille que je trouvais très jolie.
C'était pas moi.
Ouais, non, j'avouais qu'elle faisait partie d'une grande part de motivation. Et puis, bon, j'y allais parce qu'il fallait aller à l'église. Il fallait aller à l'église, c'était une bonne chose.
C'est ça, c'était juste culturel, finalement.
Mais ce qui est particulier, c'est que quand tu n'es pas sauvé, quand tu n'as pas rencontré Dieu, tu ne sais pas ce que c'est qu'être sauvé. Et quand tu es sauvé, tu te dis, oh, mais c'est tellement fou, toutes ces années, j'étais dans l'erreur, ou j'ai manqué ça. Mais je ne savais pas, en fait. Donc, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mm-hmm. Je ne savais pas ce que ça pouvait être, la vie chrétienne.
Tu pensais que c'était ça, en fait.
Ouais, c'était ça. Mm-hmm. Et j'ai fait des prophéties, même dans l'église. Et je me suis même fait baptiser d'eau. Et j'ai pris un bon bain. Parce que, franchement, je n'ai rien compris à ce que j'ai fait.
Exactement.
Tout était dans la tête. Et puis, un jour, on m'invite à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Où il y a un homme qui est passé à UMCI TV. Déjà, vous l'avez rencontré. C'est Moussa Touré. Mm-hmm. Et là, cet homme, dans cette petite réunion qui se faisait dans une salle d'une banque en Bretagne, et là, il prêche et il raconte comment il a rencontré Jésus, lui qui était ancien musulman. Jésus s'est révélé à lui en vision, Jésus lui a dit qu'il l'aimait, et il a vu Jésus-Christ crucifié à la croix pour lui. Et pendant qu'il parle, moi, je suis au dernier banc, dernier rang, parce que bien que je sois dans ces milieux-là, je ne me sentais pas à l'aise. Il y avait comme un manque en moi, un vide en moi. Et là, pendant qu'il prêche, ce qui est fou, c'est que mes genoux commencent à s'entrechoquer, je commence à trembler. Et ce qu'il dit, je le vis littéralement. Je ne sais pas comment Dieu a fait ça, mais quand il parlait de Jésus et de sa rencontre avec Jésus, de sa vision, moi-même, j'ai la même vision qui s'impose dans mon cœur. Et là, je vois ce Jésus-Christ crucifié à la croix, le visage ensanglanté qui est là. Et je vis son amour. Je réalise pour la première fois que Jésus a pris ma place. J'étais coupable, je méritais d'aller en enfer, mais Jésus a pris ma place parce qu'il m'a aimé. Et lui qui était innocent a été rendu coupable pour subir ma condamnation, prendre mes fautes, mes péchés, pour que moi, je n'ai plus à mourir et à souffrir. Et là, je comprends l'amour de Dieu, je comprends qu'il y a un Père qui m'a tant aimé, qui a envoyé son Fils mourir à ma place. Et là, ce même Jésus qui s'est révélé à moi pendant que ce prédicateur prêchait me dit « Michael, je t'aime ». Et là, j'ai le cœur qui est rempli d'un amour et il me dit « Maintenant, abandonne tout et suis-moi ». Et je ne sais pas comment Dieu a fait ça, mais j'étais mis face à un choix, le choix du royaume. Est-ce que j'allais suivre Jésus ou est-ce que j'allais continuer ma petite vie telle qu'elle était? Mais pour la première fois de ma vie, alors que ce nom, Jésus, ne signifiait rien pour moi, je le chantais pendant des années, je l'ai entendu pendant des années, mais pour moi, Jésus ne signifiait rien. Pour la première fois, j'avais cette certitude et cette assurance que Jésus-Christ était vivant. Il était ressuscité et qu'il était le Fils de Dieu et qu'il m'a tant aimé, qu'il a pris ma place à la croix, qu'il est mort pour moi et que 3 jours plus tard, il est ressuscité. À ce moment-là, j'étais touché par l'amour de Jésus pour moi et l'amour du Père qui a donné son Fils pour moi, que j'ai eu un choix à faire. Et là, j'ai vu toutes les choses auxquelles je tenais défiler devant moi, comme en quelques secondes, j'ai vu cette fille, j'ai vu certaines choses auxquelles j'étais attaché. Et là, j'ai pris la décision, je me suis levé, je suis allé me planter devant le prédicateur. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, quelque chose m'a poussé. Il m'a dit, je vais te dire pourquoi tu es là. Jésus-Christ s'est révélé à toi sur ta chaise alors que tu étais là. Et tu as décidé de le suivre et de lui donner ta vie. Et il a prié pour moi pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Il a dit, tu serviras Dieu et Dieu va t'amener loin et tu prêcheras l'évangile dans les nations. Et c'est comme ça que je me suis converti ce jour-là. Ce jour-là, j'ai ouvert ma Bible, alors qu'avant je la lisais, elle ne signifiait rien pour moi. J'étais inondé d'amour pour la Bible. Je lisais la Bible nuit et jour. Les frères que je fuyais, les frères et sœurs de l'Église, avec qui j'aimais pas trop être en contact. Ce jour-là, j'avais envie de les prendre dans mes bras et leur dire je vous aime. J'avais envie de parcourir le monde et de dire à tout le monde Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à l'île de la Réunion voir ma famille. Et là, j'ai témoigné à ma grand-mère. Dieu n'est pas une religion, Jésus-Christ est ressuscité, c'est lui le chemin. Et si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Ma grand-mère était au lit, couchée depuis des jours ou semaines, je ne sais plus. Elle avait très très mal, j'ai prié pour elle, parce que j'avais lu dans la Bible, vous imposerez les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris. Et là, elle a senti de l'électricité la traverser de la tête aux pieds. Et c'est là qu'elle elle a été guérie instantanément. Le lendemain, elle faisait le ménage dans sa maison, sa cour. Bon, elle était assez âgée. Ma sœur, qui avait une maladie de la peau, ma mère lui donnait des bains là, dans un liquide rouge, je me souviens. J'ai dit, mais je sais, Jésus est vivant, il peut guérir Émilie. Alors, ils me regardaient tous avec des gros yeux, mais j'ai pris Émilie, ma petite sœur. Elle avait 9 ans, dans la chambre. J'ai commencé à entonner un cantique et là, ma petite sœur pleurait, les larmes coulaient sur son visage. L'amour de Jésus était en train de l'inonder. J'ai prié pour elle et elle a été propulsée, je pense, à 1 ou 2 mètres de moi, électrifiée comme une... Son corps était littéralement en lévitation. J'ai fait « Waouh !» J'étais tellement content de voir la puissance de Dieu agir sur son corps. Elle était comme ça. Son corps était littéralement... J'ai fait « Waouh !» J'ai appelé « Maman !» Ma mère arrive. « Qu'est-ce que t'as fait à ma fille ?» Elle s'est relevée, elle était guérie.
Amen.
Et puis ça a été une succession comme ça de miracles, de personnes qui étaient délivrées de mauvais esprits. Partout où je passais, je voyais la présence de Dieu se manifester. Et puis il y a eu ce fameux jour où, tellement embrasé par le Seigneur, je ne pouvais plus continuer mes études. C'était trop dur, le feu de l'appel brûlait. Je voulais prêcher et parler de Jésus. Et c'est là qu'un soir, j'ai comme eu le feu vert du Saint-Esprit qui m'a dit « Ok, Michael, tu peux arrêter si tu veux. » J'ai arrêté, j'ai témoigné à tout le monde à l'université. On m'a dit « Mais vous êtes fous, vous fréquentez des sectes, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui vous influencent ?» J'ai dit « Non, mais Jésus-Christ vous aime. » Et j'ai prêché l'évangile, j'étais tout feu, tout flamme. Et un mois plus tard, après avoir arrêté les études, c'est là que j'ai eu la vision de enseigne-moi.com. C'est là que j'ai rencontré Jérémy. Et on a commencé comme ça, l'œuvre de Dieu, enseignement.com est né, puis MCITV, puis on en est là aujourd'hui.
Exactement, et en fait c'est ça, c'est que ton histoire, elle commence avec toi, mais il y a toute une suite après, c'est que cette vision que Dieu t'a donnée, Dieu t'a sauvé, mais dans un but, avec un appel précis, celui d'apporter l'évangile partout. Tu es non seulement un prédicateur, mais tu es aussi un visionnaire, celui du site enseignemoi.com, puis EMCITV aujourd'hui. Et en fait, oui, ton salut a été vraiment une porte ouverte pour le salut d'un grand nombre, vraiment, parce qu'on ne connaît même pas tous les fruits qu'il y a eu. Et on voit que Dieu avait sa main sur ta vie. Merci chérie d'être venue nous raconter ta conversion.
C'est un plaisir. Merci à toi.
Donc vous êtes d'accord? C'était génial.
Très fort. La deuxième fois cette semaine, je vais me lever et partir avant la fin de l'émission.
Tu l'as fait la semaine dernière aussi?
Ah, il l'a fait tout le temps.
Ah non, c'est merveilleux. C'est sûr, quel impact.
Vraiment, magnifique témoignage. Vraiment, on rend gloire à Dieu et on vous encourage à être ces lumières autour de vous, dans votre famille. Soyez tous bénis. Je vous souhaite un très, très, très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles émissions de Bonjour Chez Vous. Bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCITV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour Chez Vous sur emcitv.com.